19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez, comme toujours un plaisir d'ailleurs, on débute la semaine avec vous, avec au menu ce soir ce qui vous attend, durant une heure, les informés jusqu'à 20h, vous savez, l'articulation elle n'a pas changé, la structure elle est même, et puis alors on va démarrer, justement nous irons direction Nanterre, avec Bart Piron, un élu de l'UNEF, ils ne sont pas contents, ça fait leur 10e nuit, qui campe devant la présidence de l'université. Une mobilisation importante, pas de compromis trouvé. On va tenter de savoir évidemment où ils en sont précisément. À 19h15, j'ouvrirai l'antenne au 01 53 48 3000 pour parler avec vous, échanger justement sur toutes ces violences, les rapports jeunes-police, puisque ce week-end, la police visée par des tirs de mortier. Dans la soirée précisément de dimanche 7 novembre, eh bien une cinquantaine de jeunes ont fait usage de mortiers d'artifice contre les policiers et le commissariat. On va en parler avec justement un ancien policier du RAID qui est avec nous, Bruno Pomard, qui a fondé RAID Aventure. Il en est le président. Il est avec nous aujourd'hui et on va tâcher de mieux comprendre évidemment et décrypter cette actualité. Face à lui, Bibi Nassiri, évidemment personnalité des quartiers populaires, mais pas que, réalisateur, comédien, acteur, c'est les frères de Samy Nassiri. Il sera avec nous, justement, c'est le face-à-face. Et un troisième débatteur, Mohamed Benjebour, qui lui viendra nous apporter son analyse avec ses... Il est conseiller en communication de l'audiovisuel et de l'industrie, donc culturelle. Voilà ce qui vous attend. 01 53 48 3000, c'est tout à l'heure. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, et plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
L'invité actu, c'est parti.
Les informés, l'interview.
Et nous sommes avec Bart Piron, l'élu UNEF au conseil d'administration. Bonjour Bart Piron.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes en direct de Nanterre?
Je suis en direct de Nanterre, 8e étage.
8e étage précisément. Alors justement, Bart Piron, vous êtes depuis maintenant, c'est votre 10e nuit, hein. Vous entamez votre 10e nuit de mobilisation à la faculté de Nanterre. Alors on va essayer de comprendre. Vous occupez les locaux de Nanterre, vous en êtes à votre 10e jour de mobilisation pour les sans-facs. Qu'est-ce que c'est que les sans-facs, vous allez nous dire? Donc vous, étudiants, militants, vous réclamez l'affectation d'une soixantaine de vos camarades, c'est cela ?
En effet, en fait, c'est exactement ça. Les sans-facs, pour expliquer très rapidement, c'est tout simplement des étudiants qui soit viennent d'avoir le bac ou leur licence ou n'importe quel diplôme qui voulaient accéder à l'enseignement supérieur et qui sont refusés à l'université, qui voilà se retrouvent empêchés de pouvoir étudier dans la fac et la filière de leur choix.
Et vous avez décidé de faire un rassemblement qui dure maintenant 10 jours, hein, précisément.
Exactement. En fait, ce qu'on fait, c'est que depuis mercredi 27 octobre, donc un tout petit peu plus de 10 jours, nous occupons purement et simplement la tour administrative, la tour des bureaux de la présidence de l'université, voilà, pour réclamer que ces étudiants soient inscrits à l'université de Nanterre. Il en reste qu'une soixantaine, dont par ailleurs une vingtaine veut potentiellement être inscrits dans d'autres universités, pas forcément uniquement Nanterre. Et en fait, tout cela fait suite au fait que la présidence, il y a une semaine et demie, a décidé d'arrêter de négocier avec nous, alors qu'on avait déjà inscrit une soixantaine d'étudiants.
Ouais.
Et donc c'est pour ça qu'on occupe.
Et pour quelle raison elle a décidé de rompre justement la conversation avec vous, de rompre justement ce lien alors que vous êtes en train d'essayer de faire valoir évidemment votre voix?
Bah écoutez, l'université considère qu'elle a fait suffisamment, en fait. Que voilà sur les 120 dossiers d'étudiants qu'on avait, elle considère qu'elle a fait suffisamment, que ça n'est plus à elle de faire tout le travail, et donc elle a décidé de s'en remettre au rectorat, qui lui-même ne trouve pas de place en réalité pour ses étudiants, mais voilà, la fac pense qu'elle a fait assez, alors que nous, voilà, on a un nombre de dossiers, comme je dis, une soixantaine, qui, comparativement à une fac de 34 000, 35 000 étudiants, en réalité c'est une goutte d'eau, donc on comprend pas, l'université elle a fait beaucoup en effet, mais on pense qu'elle peut faire plus, et que ses étudiants ne peuvent pas rester, en début du mois de novembre, ne peuvent pas rester sans affectation.
Bart Piron, dites-moi, vous êtes élu au conseil d'administration, vous êtes en train de me faire dire, ou nous faire dire, justement ce soir, que le dialogue est rompu.
En effet, puisque ce matin, la présidence, il y a une semaine, nous avait proposé de se retrouver, de se rencontrer aujourd'hui, et hier à 23h, ils nous ont envoyé un mail pour dire qu'ils annulaient la rencontre. Alors que nous, ça fait 10, 12 jours qu'on est ici, et qu'on avait proposé un compromis, une sortie, enfin voilà, un compromis, une négociation à discuter. Et donc la présidence a une fois de plus décidé de poursuivre la fermeture du dialogue. Il propose une réunion, puis il l'annule.
Donc aucune négociation possible aujourd'hui.
Aucune négociation, en effet. Donc c'est pour ça qu'il y a un rassemblement qui là a commencé il y a quelques minutes devant le bâtiment de la présidence. Et que par ailleurs, on fait une assemblée générale demain. L'ensemble des étudiants de l'université sont invités à, voilà, pour essayer de la mettre plus de pression sur l'université pour qu'on puisse reprendre le chemin des négociations et des discussions.
Alors, le chemin des négociations et des discussions, Bart Piron, justement, qu'est-ce que vous réclamez précisément? Quelles sont vos revendications?
Notre revendication, elle est simple. C'est que, les 61 étudiants qui n'avaient pas d'affectation, ils puissent tous en trouver une. Une quarantaine spécifiquement à Nanterre et une vingtaine qui est ouverte à d'autres propositions.
Oui.
Voilà. Et le fait qu'ils puissent tous étudier dans l'université de leur choix. Cette revendication, elle s'additionne aussi à celle de demander, évidemment, plus de moyens dans les universités pour ouvrir plus de places, embaucher plus de profs et garantir de bonnes conditions d'études à l'ensemble des étudiants.
Donc, j'ai bien compris, la mobilisation s'intitule les sans-fac, hein?
C'est ça, en fait. C'est un collectif, le collectif des étudiants sans-fac, qui défendent le droit d'étudier.
Donc, la faculté aujourd'hui, j'imagine que l'ensemble de vos camarades étudiants vous soutiennent?
Alors en tout cas, les cours ont repris aujourd'hui, en effet. Et nous, tout le monde n'occupe pas les bâtiments. On a des militants qui sont à l'extérieur, qui sont allés dans les cours aujourd'hui, dans les amphithéâtres, dans les TD, s'adresser aux étudiants. Et en effet, ce qu'on constate, c'est que très largement, nos revendications, celles de plus de moyens dans les facs, de l'inscription des étudiants sans affectation, est très largement soutenue par les étudiants. Et on a pu le constater dès aujourd'hui. On le verra demain à l'Assemblée générale. Mais clairement, on voit que les étudiants défendent clairement ce droit-là, le fait que étudier c'est un droit et qu'il faut en effet plus de moyens dans les universités, c'est très largement défendu par les étudiants et soutenu en effet.
Alors si la fac refuse de négocier avec vous, si la présidence refuse de négocier avec vous, que va-t-il se passer?
Bah écoutez, nous pour l'instant l'occupation se poursuit. L'occupation se poursuit. Chaque jour, on va continuer à essayer de contacter la présidence, de rentrer en contact avec eux, de pouvoir enfin avoir un canal de discussion. Et en parallèle, et comme je dis, il y a une assemblée générale demain qui peut-être déterminera aussi d'autres moyens de lutte, d'autres initiatives, d'autres échéances. Et donc tout sera discuté demain en Assemblée Générale. Et nous, en parallèle, pour le moment, l'occupation de la tour administrative se perdure jusqu'à ce que on en décide autre chose et en espérant que la présidence nous entende et reprenne le canal des négociations.
Canal des négociations, donc une mobilisation qui devient de plus en plus importante, si j'ai bien compris, Bart Piron.
En tout cas, on espère. On verra demain à l'Assemblée Générale. On a été beaucoup applaudi aujourd'hui dans les cours. On espère que demain, en effet, la mobilisation sera plus importante. L'occupation, on perdure.
Qu'est-ce que vous attendez justement comme mobilisation importante?
Nous, ce qu'on espère, c'est déjà un minimum, un soutien qui s'exprime par des rassemblements de la part des étudiants. Mais aussi que les étudiants ne se contentent pas de soutenir la mobilisation, mais décident d'y prendre part en réclamant eux-mêmes plus de moyens. Et donc peut-être, comme je disais, je ne sais pas précisément ce qui sortira à l'Assemblée Générale de demain, par des rassemblements, des mobilisations, intervenir auprès d'autres étudiants aussi, trouver un peu tous les moyens qui permettent de convaincre clairement l'université qu'il faut discuter avec nous, et aussi de permettre qu'au niveau du ministère, du rectorat, on puisse avoir des moyens qui soient débloqués pour l'université et pour qu'on puisse tous étudier dans de bonnes conditions.
Alors justement, Bart Piron, vous êtes à Nanterre, à la faculté de Nanterre. Je vais lire un de vos slogans. Les 100 facs occupent les bureaux de la présidence. Soutenons leur lutte contre la sélection sociale. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Mais écoutez, nous, ce qu'on constate chaque année, c'est que les 100 facs, en très très grande majorité, sont des étudiants qui viennent de lycées défavorisés, de quartiers populaires, beaucoup d'étudiants étrangers aussi. On considère qu'aujourd'hui, et ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est que la grande majorité des étudiants et étudiantes qui sont refusés aujourd'hui à l'université le sont en partie sur des critères pédagogiques, mais aussi grandement, indirectement, par des critères sociaux, comme vous dites, les lycées défavorisés, les quartiers populaires, les jeunes qui n'ont pas forcément eu toujours des études dans de bonnes conditions, qui viennent de pays étrangers. Et donc on considère que cette sélection, elle est avant d'être pédagogique, elle est sociale, et que t'as toute une partie de la jeunesse qui se retrouve en dehors des universités à cause de ça.
Je vois aussi également, Bart Piron, qu'il y a là plusieurs personnalités politiques et des syndicats qui vous soutiennent, en tout cas qui ont apporté leur soutien.
En effet, c'est pour ça qu'on considère et qu'on trouve que la présidence est très isolée, parce que on a pu, on est militant à l'UNEF, mais c'est la première année où on a autant de soutien des députés de la France Insoumise, des conseillers régionaux de la France Insoumise, d'Europe Écologie Les Verts. On a eu très nombreux syndicats et du département et au niveau national, l'ensemble des organisations départementales du, c'est Nanterre, donc c'est les Hauts-de-Seine, des motions, de syndicats, d'organisations qui viennent des quatre coins de la France. Donc on voit qu'on est très largement soutenu. Ça nous a fait chaud au cœur, ça nous a permis aussi de tenir. Et on trouve que ça démontre aussi que, comme je vous dis, non seulement les étudiants soutiennent nos revendications, mais que dans une bonne partie, en tout cas une très grande partie de la population, nos revendications aussi sont partagées et soutenues, et que l'université est plutôt un petit peu isolée dans sa volonté de ne plus inscrire personne.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la présidence, justement, si elle vous écoute ce soir, Bart Piron ?
Écoutez, qu'ils comprennent déjà qu'on n'a rien contre eux individuellement, mais que nous on aimerait clairement que, comme je vous disais, les négociations réouvrent. Nous on a proposé un compromis, c'est pas pour dormir dans les bureaux de la présidence pendant des semaines encore, c'est pour qu'on puisse trouver une sortie de crise, une négociation qui permette que personne ne se retrouve dégoûté à la sortie, mais s'ils nous écoutent, clairement, qui répondent à nos mails, qui décident de reprendre. On propose un rendez-vous demain. On espère qu'ils l'acceptent et qu'on puisse avancer par rapport à tout ça.
Écoutez. On va suivre cela avec beaucoup d'attention. Bart Piron, vous êtes un élu, donc l'UNEF au conseil d'administration. Merci d'avoir été avec nous justement dans les informés pour en parler. Et on suivra tout cela avec beaucoup d'attention. Merci Bart Piron.
Merci à vous. Bonne soirée.
Merci, bonne soirée. 19h11 précisément. En attendant Bibi, qui est coincé certainement dans les bouchons, nous allons... je vais ouvrir l'antenne. 01 53 48 3000. Un sujet qui nous concerne justement. C'est cette guerre, ce conflit entre le Maroc et l'Algérie. On parle d'un conflit armé qui plane entre le Maroc et l'Algérie. Alors, je vous pose la question. Est-ce que la guerre peut-elle éclater entre le Maroc et l'Algérie ? C'est des questions que je vois, en tout cas, qui sont soulevées, y compris sur les réseaux sociaux. Eh bien, je voudrais qu'on en parle au 01 53 48 3000, juste après la pub. J'attends vos appels pour en parler et avoir votre sentiment. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Les informés, c'est jusqu'à 20h, il est 19h19 précisément. Et si vous venez de nous retrouver, écoutez, je vais ouvrir l'antenne, les auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
C'est parti avant de retrouver le face-à-face tout à l'heure, justement pour parler des rapports police jeunes. J'ouvre l'antenne au 01 53 48 3000. Tiens, je vais accueillir Bilal du Val d'Oise. Bilal, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir,
Bilal. Bonsoir, bienvenue Bilal. Vous nous appelez de quelle ville du Val d'Oise ?
J'appelle de Juigné-Moutier.
Eh bien, bienvenue Bilal, on vous écoute alors. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous avez un avis sur cette nouvelle guerre des sables, grand point d'interrogation. Certains disent que d'ailleurs, spécialistes, qu'une guerre pourrait éclater. Moi, j'ai tendance à dire que non, mais bon.
Alors, je vais vous dire non, pour la simple raison, c'est que depuis les années 60, on entend parler de cette histoire de conflit entre l'Algérie et le Maroc, mais c'est plutôt un conflit d'ego entre les deux systèmes, je dirais.
Oui.
Donc vous avez en face de vous deux systèmes qui sont complètement donc différents sur leur manière de gouverner.
Oui.
On a un système qui est complètement militaire en Algérie. Moi je suis algérien, donc j'ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans en Algérie, donc je connais très bien le sujet pour avoir vécu même les années terrorisme, etc. Donc vous avez un système qui est complètement verrouillé, complètement militaire, et après vous avez une monarchie, une monarchie qui cherche bien sûr à garder ses intérêts, que ça soit dans le Maghreb ou ailleurs. Il n'y aura pas de guerre parce que tout simplement, depuis maintenant 60 ans, on entend parler de ce conflit. Et on a actuellement un président qui cherche à se faire une place au niveau mondial ou au niveau international.
Ouais, c'est ça.
Donc
ouais.
Il a du mal. Ouais.
C'est ce que vous pensez.
Localement, il a du mal à se faire une place parce qu'il y a eu près de 2 ans de Irak et le résultat n'est pas là.
Oui.
Il a mis toute une bande de mafias, de voyous en prison, mais ça n'a pas suffi. Donc il est complètement verrouillé par ce système lui-même. Et c'est pas pour autant qu'il va faire la guerre ailleurs, parce qu'il faut qu'il cherche juste cherchent à faire une place au niveau international. Ils cherchent à faire un nom.
Eh bien, on va voir si les autres posent comme vous. Est-ce qu'ils cherchent à faire une place, se faire une place au niveau international? Bilal, c'est très pertinent ce que vous venez de dire. On va voir ce qu'en pensent les autres auditeurs au 01 53 48 3000. Merci, Bilal.
Ben, c'est moi qui vous remercie. Bonsoir à vous.
Bonne soirée. Nordine de Thiers, la ville de Thiers aussi, où on a un beau bassin d'audience. Nordine, bonjour, bonsoir.
Allô, bonsoir. Allô, bonsoir.
Bonsoir, bienvenue Nordine.
Ben, j'habite pas Thiers, je vais à l'entraînement à Thiers, mais j'habite Choisy-le-Roi.
Choisy-le-Roi. Compris. Ah, c'est dans le 94. C'est
donc,
ça.
Donc Bilal, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, bon, c'est vrai que l'Algérie, c'est un régime militaire, c'est vrai. Maintenant, le président... Il a envie de se faire une place. Je suis peut-être pas trop d'accord, parce que quand on regarde bien, l'Algérie, elle a un soutien de la Russie. Donc, il a pas besoin de se faire une place aux yeux du monde. C'est pas voilà quoi. Enfin, c'est un petit point sur lequel je suis pas d'accord. Maintenant, moi, je suis parti deux fois au Maroc cette année.
Oui.
Je suis parti fin août début septembre et je suis retourné. J'y étais la semaine dernière.
Oui.
Voilà les Marocains qui kiffent les Algériens.
Ben, oui, ils sont frères, ils se disent frères.
Ils nous aiment bien. Ils nous ont soutenus pendant la coupe d'Afrique. Et Mahabba, on est les bienvenus.
Ben, c'est un peuple frère. Hein.
Maintenant une guerre. Mais non, c'est pas possible. Une guerre de quoi? Mais non. À la rigueur, le sujet sur lequel il faut peut-être plus s'appuyer, c'est le fait qu'il y a un manque à gagner concernant le commerce.
Là, ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais, vous avez raison.
Mais moi, je viens de sortir de l'autoroute, là. J'ai entendu une guerre, mais d'où elle vient, cette rumeur, là? Elle vient d'où?
Ah non, c'est pas une rumeur, non. C'est les spécialistes qui soulèvent une vraie question, attention.
Les spécialistes
qui soulèvent de vraies questions,
Spécialistes de quoi?
Spécialistes de la géopolitique.
Ah ouais, de la géopolitique. Ouais. Ah ok, d'accord. Ah ouais,
ça vous fait peut-être rire, mais bon, écoutez, ça fait rire le débatteur aussi.
Voilà. Oui. Ils veulent casser les Arabes. Ah,
mais écoutez, oui. Bon, écoutez,
on mordra pas l'hameçon. Les Marocains, c'est nos frères. On est des musulmans. Faut pas penser comme ça.
Bah écoutez, votre message, j'espère qu'il va passer. Vous avez bien raison. Nordine, merci en tout cas. T'es extrêmement pertinent.
Merci.
On lâche rien.
Hein. Elles sont belles et
il en profite pour glisser un message. Merci Nordine. J'espère que vous n'êtes pas marié, Nordine, parce que sinon votre femme risque d'être jalouse. Hein. Nordine, il est parti, Nordine.
Je suis toujours là.
Ouais, je disais, j'espère que vous n'êtes pas marié, parce que sinon votre femme risque
Non, je suis pas marié. Franchement, si je me marie une Marocaine, je dirais pas non, parce que tous mes potes qui sont mariés avec des Marocaines, wallah, ils sont tous devenus en surpoids. Wallah,
ça mange. Bon, allez, Nordine, à bientôt. Le face-à-face, c'est parti tout de suite. Ça continue d'appeler au 0153 48 3000. Le face-à-face sur le sujet, un autre sujet qui nous concerne, c'est celui des quartiers populaires. Rapport police jeune. C'est parti.
Les informés, le face-à-face.
Argenteuil, la police visée par des tirs de mortier. Dans la soirée de dimanche 7 novembre, une cinquantaine de personnes, ont fait usage de mortiers d'artifice contre les policiers et le commissariat Argenteuil. Ça se passe dans le Val-d'Oise en réaction à l'interpellation d'un individu qui lui-même a été blessé au visage samedi soir. Alors, moi je vais soulever plusieurs questions et pour justement des questions qui sont à la fois 40 ans de politique de la ville, 40 ans effectivement on revient en permanence sur ces sujets. Alors, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, comment tenter le rapprochement entre jeunes et police? C'est la première question. Est-ce que le dialogue est toujours aussi compliqué dans ces quartiers populaires quand on parle de cette France à deux sociétés? Il y a les quartiers populaires et puis certains ont tendance à dire la société française. Ce sera une autre question que je vais soulever aussi. Et puis, le dernier point que j'aimerais aborder, parce que Bruno Pomard le fait régulièrement dans Raid Aventure, c'est les jeunes dans la peau de la police. Et justement, est-ce que ça passe par là pour mieux comprendre le mécanisme? Alors, pour en parler, Bruno Pomard, bonjour, ancien du Raid. Hein.
Bonsoir,
ça
ne
plaisante pas. Hein.
Oui, ouais.
Dès qu'on me dit Raid, moi, j'ai dit attention. Hein.
Surtout quand je suis confronté à un autre débatteur que je connais bien.
Oui, exactement. Vous êtes le fondateur aujourd'hui et le président de Raid Aventure.
Oui, tout à fait.
En quelques mots, Raid Aventure.
C'est une association qui lutte, c'est le cas de dire, sur le terrain depuis 32 ans pour le rapprochement des jeunes et des institutions et des jeunes et la police en particulier. Et on continue à travailler, on lâche pas le terrain parce qu'il faut être sur le terrain.
Et bien merci d'être avec nous justement. À autre personnalité qui connaît lui-même aussi ces rapports police-jeunes, mais également aussi il est confronté régulièrement sur le terrain à eux-mêmes. C'est Bibi Nassiri, acteur, comédien, scénariste. Ça fait plaisir de vous voir, Bibi.
Ouais, bonjour. Et je me suis
bien dans le micro. Il est ouvert son micro? Oui.
Je suis désolé pour le retard, mais.
Non, pas de soucis.
C'est parce que j'ai rencontré des Marocains, j'ai discuté un petit peu avec eux.
Dans la
J'aurais parlé en Kabyle.
Il est beau. Il est beau, ce Bibi d'Assyrie, il est beau. Non, je veux juste
dire, parce qu'on a dit débattre avec...
Il est ouvert, non? Je crois pas. Hein. Si. Ah, il faut vous rapprocher devant le micro. Attendez, je présente aussi un autre débat.
Ah oui, pardon.
Mohamed Benjibour, qui est conseiller, donc spécialiste des questions de l'industrie culturelle. Bonjour, Mohamed.
Bonjour, moi je suis en surpoids, mais je suis pas marié avec une Marocaine.
Dis donc, c'est bon ce soir, c'est bon. Bibi d'Assyrie.
Ouais, je voulais dire juste que débattre avec Bruno. Bruno, c'est mon ami de 30 ans. On a travaillé avec les jeunes dans les quartiers ensemble. J'étais parrain de son association City Red. Débattre pas, je pense qu'on pense pareil. On s'engueule des fois parce que à un moment donné, même quand on parle avec ses amis sur plein de sujets qui concernent la société française, à un moment donné, on n'est pas d'accord. Même sur la géopolitique, on n'est pas d'accord, mais on est 80% d'accord sur ce que peut être le bien de notre pays, la France.
Ben on va en parler justement sur ce que peut être bien notre pays, la France, parce que ça, c'est un mot, justement, que je retiens de votre bouche. Mohamed Benjibour.
Non, c'est important,
parce que j'ai l'impression, franchement, je vous le dis, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite, que les jeunes des quartiers populaires ne se sonnent pas français, justement, parce qu'on leur fait comprendre qu'ils sont en marge de notre société. Bibi Nassiri,
c'est là
à votre
est,
faire un tour.
C'est là où on ne sera pas d'accord, Bruno et moi.
C'est là où vous ne serez pas d'accord. Ben, parlons-en. C'est là où le bas blesse. Hein.
Ben, moi, j'ai aujourd'hui 60 ans. Depuis que je suis gamin, ma mère est française, mon père est algérien. Ma mère est française et mon père est algérien. Et j'ai grandi dans les quartiers populaires. J'étais pas un des plus gentils, j'étais même un des pires. J'ai eu une vie mouvementée. Il la connaît, Bruno, il connaît bien ma vie. J'étais un des petits cons et après, j'ai fait des choses, j'ai fait de la tôle, j'ai fait tout ça. Donc je sais, je connais cette histoire-là. Mais ce que je peux dire, c'est que
vous êtes légitime.
Légitime, je sais pas, mais par rapport à ma propre histoire.
Bah, vous avez une histoire.
Mais même c'est un exemple, c'est que ma mère est française. Je m'appelle Larbi Gilbert. On m'a jamais appelé Gilbert et on m'a toujours dit que j'étais un arabe, on m'a jamais dit que j'étais un français. Alors que je suis 50% français, 50% algérien. J'ai pas honte d'être algérien, j'ai pas honte d'être français. Au contraire, je suis très fier d'être français, très fier de ma double culture. Sauf que je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises, qui sont encore commises aujourd'hui avec les médias, certains vedettes des médias qui font que, à force de rabâcher, on m'a rabâché ça depuis toujours. Vous n'êtes pas français. La religion de votre père n'est pas compatible avec la France. Et nous rabâcher. À un moment donné, parmi certains, les plus faibles, surtout les plus démunis ou ceux qui sont un peu, qui trouvent pas leur place, il y en a beaucoup qui tournent le dos à la France.
Vous vous rendez compte, ça c'était il y a combien d'années, Bibi Nassiri?
Bon, ça c'était dans les années 70, 80,
70,
on va dire.
Ouais. Et c'est le cas encore aujourd'hui, en 2021. Ouais. C'est ça qui
n'a
me.
Pas évolué.
C'est ça qui m'interpelle. Bruno Pomar et ensuite Mohamed. Bruno Pomar.
Plus mesuré que mon ami.
L'intérêt c'est d'essayer de voir justement.
Non, je veux être plus mesuré. Il y a de nombre de jeunes dans les quartiers. Certains se sentent stigmatisés, c'est clair. On doit parler d'ailleurs des violences qui ne concernent qu'une minorité de ces jeunes des quartiers. Parce que dans les quartiers, moi j'y suis très souvent. Et 90, 95, 97, 98% des gamins et des familles, n'emmerdent personne, excusez-moi de dire, vivent normalement, parfois subissent et souvent subissent les comportements de 2-3%.
C'est ce qui est là. Jusque-là, on est d'accord.
Mais quoi qu'il en soit, moi, c'est vrai que la France doit faire toujours un effort, mais quelle est la minorité, je dirais, d'hommes politiques qui s'amusent à stigmatiser nos compatriotes marocains, algériens, etc. Moi, j'ai plus d'amis algériens, marocains que de français de souche. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a plein qui se sentent bien dans ce pays. Et c'est parfait qu'on soit noir, qu'on soit black, beurre ou quoi.
On met ce que sous la Bibi Nassiri. Il a pas tort. C'est-à-dire 40 ans après. Non, mais c'est vrai.
Tu n'es pas parfait.
Évidemment. Non, mais attendez. Non, mais Bruno Pomar, il a pointé du doigt un sujet sensible. C'est-à-dire que ces gamins ne se sentent pas français. Pour quelle raison?
Une minorité.
Oui, c'est cette minorité qui est la plus violente.
Franchement.
Oui, mais d'accord, mais écoutez, mais vous avez l'exemple même. Mohamed Benjibour, des origines qu'on connaît, notre ami Bibi aussi, mais ils ont réussi. Ils sont intégrés dans la société et ils sont des centaines et centaines.
Oui, on est plus nombreux intégrés que ceux qui vendent du shit ou qui vont casser les commissaires.
Heureusement. Par là, voilà, nos compatriotes.
Heureusement d'ailleurs pour les vendeurs de shit.
Oui,
de la concurrence.
Franco-algériens, franco-marocains et franco-tunisiens, etc., sont pas tous stigmatisés. Je crois que le problème, c'est que les médias ont tendance à mettre le focus sur une minorité de gens. Effectivement, on aurait peut-être pu faire plus d'efforts sur ce sujet-là, sur l'intégration, sur l'assimilation, employant tous les mots qu'on veut, parce que maintenant, c'est très à la mode. Non, moi, je crois qu'il y a une majorité de nos compatriotes qui sont intégrés dans ce pays. Et je vous dis, on a l'exemple avec eux, mais j'en connais des quantités de compatriotes.
Évidemment.
Alors, Mohamed Benjibour.
Non, mais Bibi a utiliser le terme approprié, on nous rabâche. Donc c'est une affaire de perception, de médias, etc. On parle, les médias parlent, ça c'est la tradition, on parle des trains qui n'arrivent pas à l'heure plutôt que des trains qui arrivent à l'heure. Donc forcément, on va parler des 2% qui posent problème ou des 1,5% qui posent problème plutôt que des 98%. Mmh. Moi, comme vous le savez, j'ai beaucoup vécu à l'étranger. Quand on me demande si je suis algérien ou français, je dis je suis 100% algérien et 100% français. Mmh. Et voilà, et ça doit être une richesse. Mais c'est vrai qu'on ne nous aide pas à nous représenter, à nous sentir fiers de ce qu'on est. À la fois du côté des origines
pas,
de nos parents.
Mais ça prend pas. Pourquoi ça prend pas? Ça prend pas.
Pardon, Bibi. Moi, je suis même triste, je vais vous dire, parce que Bibi a salué, et j'ai envie de le faire, moi, le travail de Bruno. Moi, je connais Bruno depuis 1996. Donc, ça fait 25 ans. Avec l'aide de Jean-Marie Cavada, on a soutenu les actions du Raid Aventure, à la fois en métropole et puis après en Outre-mer lorsqu'il était à RFO. Et je suis presque plus triste pour lui, parce qu'il fait ce travail de l'ombre, de fond, etc., depuis 30 ans maintenant, et on en est toujours là, et ça, c'est un vrai problème.
Ouais. Mais la vraie question,
avant de retrouver le quoi de neuf.
Pourquoi, lorsque j'ai vécu je suis allé en Russie, je suis resté 3-4 mois en Russie, ma femme est espagnole, je vais en Espagne tous les ans, j'ai vécu en Suisse, partout, on me dit, vous les Français, quand je suis. Quand je suis ici, quand je suis en France,
on vous renvoie, vous
en dit, on me dit moins maintenant, parce que avec mon métier, on me considère vraiment comme un Français, mais.
Scénariste, à l'époque, acteur et comédien. Voilà,
On me dit même des trucs, des anecdotes rigolotes. Il y a une soirée, on met de la musique arabe, on me dit ah Bibi, vas-y, viens danser. Mais c'est un signe.
Nevil a raison, il est dans
le quand je suis en Russie avec mon frère Samy, on rentre dans des restaurants, parce que Samy est une star énorme en Russie, dans des restaurants.
C'est vrai que c'est une véritable star en Russie.
On ne nous met pas l'hymne national algérien, on nous met l'hymne national français. Je me souviens que dans un restaurant, on était au garde à vous, Samy et moi, en entendant l'hymne national français. Tu m'as déjà vu au garde à vous, Bruno, quand on passait l'hymne national français, parce que je respecte ça, parce que plus je vieillis, plus je deviens un connard de franchouillard. Donc.
On n'a pas la même histoire, les Russes et les Français, avec les pays du Maghreb.
Non, mais n'importe où on va, nous, les Maghrébins, les Français d'origine maghrébine,
c'est ça.
N'importe où on va, on nous dit, ouais, mais vous, les Français.
Exactement.
On nous dit même on représente la culture. Oui, mais vous, les Français, vous avez bien, vous, les Français, vous avez de l'humour. Vous, les Français, on ne nous dit pas, vous, les Français d'origine maghrébine. Et ici, chaque fois.
Non, mais il a raison, Bibi. Franchement, Bruno, vous n'êtes pas d'accord. Attendez, vous n'êtes pas d'accord. On a quelques minutes de retard. Je reçois le quoi de neuf de notre éditorialiste de feu, Maître Philippe Honegger. C'est parti.
Les informés, le quoi de neuf.
Maître Philippe Honegger, bonjour, cher Ruben et associés.
Oui, bonjour, comment allez-vous?
Mais très bien, nous c'est animé ici sur notre plateau, vous le voyez bien, avec les questions qui concernent évidemment les violences, rapport jeune et police, avec Bibi Nassiri, Bruno Pomard et Mohamed Benjebour. Et vous, alors, votre signature d'aujourd'hui, justement, vous allez parler, et Bruno Pomard était ce matin sur Ilseli, il en a parlé, de l'agression au couteau des policiers à Canon. On vous écoute pour votre billet d'humeur.
Bah oui, on est effectivement dans l'actualité et c'est vrai qu'aujourd'hui on n'est pas passé très très loin du drame à Cannes avec cette attaque au couteau sur deux policiers qui auraient pu se finir en tragédie s'ils n'avaient pas été protégés par le gilet pare-balles que dorénavant ils portent systématiquement et tous les jours. C'est pas parce que ces policiers heureusement ont eu la vie sauve que cela enlève à la gravité du geste qui a été commis, et d'ailleurs toute la lumière devra être faite sur l'origine de ces faits, sur l'éventuelle nature terroriste dont on parle depuis ce matin, dont d'ailleurs je dois dire avec une certaine retenue qu'il faut saluer, parce que c'est pas une certitude, parce qu'on n'a pas encore tous les éléments sur le dossier, et donc c'est bien de dire que contrairement à ce qui a pu être le cas auparavant, on se jette pas comme ça sur la question du terrorisme pour venir tout dire. Mais ça n'a pas empêché, en tout cas, le lot de propositions de réforme présidentielle oblige, dont on nous abreuve chaque semaine au gré des faits divers. Et cette fois-ci, c'est Madame Valérie Pécresse qui sort du lot avec sa proposition de rétablir les peines planchers pour les attaques sur les forces de l'ordre. Vous savez que c'est une Arlésienne qui revient depuis quelques années. Il y a même une proposition de loi qui a été déposée par Monsieur Éric Ciotti.
Oui.
C'était le 22 octobre dernier. Ça ressort, on en parle, on dit c'est très important. D'abord, il faut préciser une chose, c'est que l'année 2021 semble être une année assez exceptionnelle en matière, si on peut dire, de meurtres sur les policiers, parce que la moyenne depuis une dizaine d'années, c'est qu'à peu près autour de 3 policiers sont tués par an par agression. Et il se trouve qu'en 2021, il y a eu un seul policier qui a été tué, c'était en mai 2021, et plus aucun mort à déplorer. C'est particulièrement exceptionnel par rapport à ce qu'on a d'habitude. Il n'y a pas de raison de particulièrement s'en réjouir. Hein. Chaque mort de policier est évidemment une mort de trop. Mais ça semble plutôt contredire ce qu'on a pu entendre en boucle et en boucle depuis ce matin dans les médias. Vous savez, tout ce débat sur l'ensauvagement, la multiplication des violences contre les policiers, et ainsi de suite, il semblerait plutôt qu'il y en a de moins en moins, en tous les cas, sur l'année 2020. D'autant que les chiffres le disent, parce que depuis 40 ans, le nombre de meurtres sur policiers a été divisé par 3. Donc ça baisse drastiquement et l'année 2021 n'est peut-être l'illustration. Mais comme je le disais, un mort, c'est déjà un mort de trop. Et il est nécessaire, et c'est certain, de continuer à lutter ou peut-être de continuer à accompagner ce mouvement qui fait baisser le nombre des meurtres sur les policiers. Et donc Madame Pécresse vient avec sa proposition. Il faut rétablir les peines planchers sur les agressions sur les policiers. Les peines planchers, petite indication, c'est quoi, puisque j'essaie de décrypter pour vous chaque semaine. Les peines planchers, c'est que quand une infraction est commise, quelle que soit la gravité, si on peut dire, de l'infraction, ce qui va compter, c'est sa qualification. Et dans ce cas-là, on a une peine minimale, imposée, obligatoire, que doivent prononcer les juges. C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, si vous frappez un policier, la peine minimale encourue, c'est 1 an. Que vous lui ayez mis une petite claque, un gros coup de poing, ou que vous l'ayez tabassé, quoi qu'il arrive, la peine minimale, ça sera 1 an et on ne peut pas y déroger. Il se trouve qu'en France, il y a un certain nombre de pays dans lesquels ça existe, mais en France, on a déjà essayé les peines planchers. C'est M. Sarkozy, en 2017, qui l'avait proposé, qu'il avait imposé dans tout un tas de domaines, et ça a été supprimé. En 2014, après 7 ans, pas d'expérimentation, mais d'implémentation, ça a été supprimé parce que tout simplement, ça ne marchait pas. Mais c'est pas simplement que ça marchait pas parce que ça n'avait pas l'effet escompté en termes de réduction de la récidive ou de la criminalité, mais ça a produit exactement l'effet inverse. Ouais. C'est-à-dire que le taux de récidive avait quasiment doublé sur certaines infractions, que le taux de criminalité avait augmenté de manière drastique et qu'on a eu des rapports à l'époque qui disaient « il faut arrêter parce que c'est horrible ». Pourquoi ? Parce qu'en réalité, plus on met de gens en prison, plus il y a de surpopulation carcérale. Et comme la prison est un milieu criminogène, c'est-à-dire qui conduit à multiplier les infractions, ça se multipliait, et on l'a supprimé. Donc en fait, ce que nous dit Madame Pécresse, c'est tiens, moi qui veux baisser les infractions, moi qui veux baisser la récidive, on n'a qu'à mettre en place une mesure dont on sait qu'elle va l'augmenter. Mais c'est un petit peu paradoxal. Surtout qu'on sait, depuis une dizaine d'années, où on a augmenté l'inverse, c'est-à-dire les aménagements de peine, baisser les années de prison, aider l'encadrement à la sortie de la prison, et on sait que ça fait baisser la criminalité, parce que la criminalité baisse grâce à ça depuis 10 ans.
Maître Philippe,
en fait, oui. On se retrouve dans une situation absolument paradoxale où on propose plus de fermeté sans avoir le résultat. Et je finis juste sur une chose.
Rapidement.
Il y a des études, il y en a pour une seconde, qui sont extrêmement claires sur la matière et j'aimerais que ça soit mis dans le débat. C'est qu'en fait, ce qui fait baisser la récidive, et ça, c'est les études scientifiques qui le disent, c'est pas d'augmenter la sévérité des peines, c'est d'augmenter le fait de se faire attraper. En gros, il faut mettre plus de policiers, mais pas forcément plus de prisons.
Alors, avant de lancer la pub, il y a juste Bruno Pomard, un ancien du RAID, justement, qui a réagi, justement, à votre billet d'humeur. Rapidement, avant de lancer la pub, je suis super à la bourre.
Je suis un peu surpris de ces propos concernant les peines planchers, évidemment, mais c'est vrai que ça n'a pas vraiment marché. Mais encore une fois, je dis une chose, moi, ce que je dis souvent à mes jeunes, à mon petit niveau, c'est que la sanction a valeur d'exemple. Une chose est sûre, que si à un moment donné, on sent qu'il y a cette impunité permanente qu'on voit sans arrêt sur le terrain, on le voit avec l'affaire des Dalton, par exemple. C'est une catastrophe pour la justice, c'est une catastrophe pour la police. C'est quelque chose de scandaleux. Donc, à un moment donné, il faut que la justice se réforme totalement. Pour se réformer, elle doit ouvrir des places de prison avec des prisons adaptées au type de...
Maître Philippe Henri Leguerre, je dois lancer la pub. Vous voulez réagir ?
Oui, après la pub ou maintenant ?
Vite, rapidement, maintenant, vite,
donc,
en quelques secondes.
À ce monsieur, toutes les études le prouvent, augmenter la sévérité des peines, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est augmenter le nombre de réponses pénales, c'est-à-dire plus de policiers, et faire baisser au contraire le temps qu'on
passe en prison,
parce que c'est ça qui fait baisser la réponse.
Maître Philippe Honegger, qu'on retrouve dès lundi prochain, sans faute.
À lundi prochain.
Merci pour votre billet d'humeur, Maître Philippe-Henri Honegger, chez Ruben Associé. Comme chaque lundi, on se retrouve tout de suite après avec Bibi Nassiri, Mohamed Benjibour et Bruno Pomard.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Dernière ligne droite justement dans les informés sur Beurre FM, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Et on parle de ce sujet d'actualité, évidemment, vous le voyez bien, qui provoque débat. Bruno Pomard, ancien du Raid et président fondateur de Raid Aventure. Bibi Nassiri, qui lui, pour le coup, évidemment, avec cette parole légitime, il a traversé une période qu'il a expliqué lui-même. Il est acteur aujourd'hui, comédien, scénariste, et Mohamed Benjibour, qui est consultant pour les questions spécialistes de l'industrie culturelle. Messieurs, dans l'ordre, Bibi Nassiri, Bruno Pomard, Mohamed Benjibour, Maître Philippe-Henri Honegger a fait beaucoup réagir.
Oui, on parlait.
Bien dans le micro, s'il vous plaît.
On parlait tout à l'heure de la récidive, des Valérie Pécresse qui voudrait faire des pleins planchers.
Oui.
Et tout. Il y a une chose. Déjà, on mélange les genres, puisqu'on parlait de gamins qui jettent des feux d'artifice. Et là, on parle d'un terroriste ou pseudo-terroriste, pour moi un fou, qui met un coup de couteau à un policier. Est-ce que les pleins planchers servent à quoi? À prévenir, à ce qu'un délinquant ait la crainte d'avoir une peine lourde en commettant un délit. Mais un taré qui met un coup de couteau à un flic, il va pas penser une heure avant, je vais pas y aller parce que je vais avoir une peine planchée. Ou un terroriste, quand il commet un délit, il va pas penser à se dire je vais avoir une peine planchée, donc j'y vais pas. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Et ces hommes politiques qui viennent tous en courant à chaque fois qu'il y a un événement ou une catastrophe ou quelque chose de dangereux qui se passe, enfin de catastrophique qui se passe dans notre pays, ces hommes politiques viennent en courant pour pouvoir légiférer en direct sur les radios. Ce qui prouve qu'un jour ces gens sont au pouvoir, on va voter pour des gens qui vont voter à chaud ou avec des coups de sang. Et c'est pas le rôle dans une démocratie de laisser ces gens voter des lois avec des coups de sang
sur le coup de l'émotion.
Sur le Parlement, oui, sur le coup de l'émotion. Chercher
sur le coup de l'émotion. Bruno Pomard.
Je suis pas contre ce que dit évidemment mon ami Bibi, c'est évident, mais encore une fois, je dis la sanction a valeur d'exemple. Je le vois avec les jeunes que j'ai. Le niveau de délit commis, c'est important. Je crois qu'il faut qu'il y ait la sanction. Pas nécessairement la prison, coûte que coûte. La sanction, c'est-à-dire qu'une sanction immédiate, oui. Pas des sanctions où on voit...
Quel type de sanction ?
4 mois, 6 mois, 8 mois. Ben, écoutez, il y a la mise à l'écart de la société, comme on le voit avec les centres éducatifs fermés, les centres éducatifs renforcés, qu'il faut vraiment renforcer, parce qu'en l'occurrence, là, ça ne marche pas comme on veut. Mais il y a des réponses concrètes au niveau judiciaire, pour des jeunes en particulier. Pas nécessairement la prison à tout prix, quand on sait les conditions de détention que subissent les prisonniers actuellement, c'est une catastrophe. Donc, il faut qu'on arrive à faire des prisons catégorienne avec des
moi je reçois beaucoup de SMS et de messages justement des certains sur ça discute beaucoup plus de fermeté, vous répondez quoi?
Oui, fermeté, mais il a tout à fait raison, je suis d'accord, il faut sanctionner, mais il faut que la sanction soit immédiate. Que voulez-vous?
Une fermeté mais accompagner l'incarcération.
Mais non, ouais. Pas nécessairement. Tu peux avoir les TIG, évidemment, il y en a 70 000 qui sont
non,
pas effectués.
Non, je ne parle pas de TIG.
Il faut qu'il y ait de vraies sanctions.
Bien dans le micro.
Pas nécessairement.
Je parle de mon histoire. Moi, je suis rentré en prison analphabète.
Ouais.
Analphabète. J'écrivais tout phonétiquement. Je suis sorti avec une licence de lettres. Mes profs me disaient que je finirais en tôle. Ils avaient raison. Ils disaient qu'il n'y avait aucun avenir pour moi. Mais mes parents avaient décidé que les profs avaient raison, que j'avais aucun avenir pour moi, que ce seraient mes frères qui s'occupaient de moi. J'étais presque handicapé. Et je fais aujourd'hui un métier où je gagne bien ma vie. Où je suis reconnu et qui est dans la culture et que j'ai mes premières armes dans la culture, ma première pièce de théâtre, je l'ai fait en prison. Si on met pas en place des structures pour encadrer les jeunes, et d'ailleurs même dans les quartiers, la police de proximité, c'était un truc génial.
Exactement.
Il y a plein de choses qu'on devrait mettre en place parce que on peut pas gérer ces quartiers, on peut pas gérer aujourd'hui dans les prisons. Alors je vais me faire engueuler par les mecs qui sont en tôle, mais c'est pas grave. En prison, c'est un peu les jeunes. Après je dis ce que je pense.
Ouais, bien sûr, vous avez raison.
Je suis une personne qui pense que la prison ne sert à rien et je suis contre la prison.
Bah, t'as servi à quelque chose, toi hein
Non, parce que c'est un sur mille. Je sais pas un exemple, mais c'est un sur mille. Non, mais je peux dire que quand j'étais en prison, mes potes qui doivent m'écouter aujourd'hui, parce qu'il y a pas de potes qui écoutent Radio Beurre, ils y croyaient pas déjà. Ils croyaient que je faisais ça pour les grâces. Et ensuite, ils pensaient pas, ils imaginaient pas une seule seconde que j'allais passer les examens que j'ai passés. Je suis rentré, j'écrivais tout phonétiquement. J'ai passé le
licence. Il fallait le faire.
Ouais, j'ai passé le certificat de pour
le
apprendre à lire et écrire.
Le CAP? Non.
Non, même pas. Non. L'alphabétisation.
Ouais.
Mais c'est exceptionnel. Mais peu importe mon cas. Ce que je veux dire, c'est que si on met pas en place des structures, déjà, que les jeunes soient à 4, 5 en cellule, c'est inadmissible. Moi, quand je me suis retrouvé en prison, j'avais la première fois 16 ans. On était tout seul en cellule. C'est plus dur d'ailleurs d'être tout seul en cellule. Il y a des suicides, il y a plein de choses, mais on était tout seul en cellule. Il n'y avait pas les dangers, il n'y avait pas la collusion. Il n'y avait pas non plus le fait de se retrouver avec des mecs de 25 ans, 26 ans, 27 ans. On était des mineurs, on était ensemble. Il y a plein de choses qui n'existent plus aujourd'hui. Alors, je ne parle pas de sévérité. Parce que pour moi, la sévérité, nous, on est des maghrébins, on a eu des papas et des mamans qui étaient assez sévères. Ça n'a rien changé, on a fait des conneries. C'est pas la sévérité, c'est le discours, c'est la discussion, c'est le parler, des rencontres.
Ouais.
Faire des rencontres.
Alors, dans l'ordre, Mohamed Benjebour, Bruno Pomar, parce que je voulais réagir aussi.
Non, moi je voulais juste simplement parler reprendre un terme sur la.
Oui,
moi je suis né, j'ai grandi à Sevran jusqu'à l'âge de 28 ans avant de rencontrer Bruno à la télévision. Mais non, je voulais simplement parler police de proximité. Je trouve qu'on oublie un peu ça et que Sarkozy, à l'époque Sarkozy, a fait beaucoup de mal à ça avec la suppression d'un certain nombre de postes. La police de proximité a le double avantage, un, de redonner un peu un sentiment de peur du gendarme, mais surtout de créer une proximité, pour le coup c'est le cas de le dire, émotionnelle, personnelle, etc., entre les habitants des quartiers et la représentation de la République. Et je trouve que c'est un peu dommage, et c'est très dommage qu'on ait fait abstraction de tout ça. Et par ailleurs, je voulais quand même réagir. Je pense qu'effectivement, malheureusement, Bibi Nasseri, et tu es effectivement une exception, et que moi, autour de moi, vous l'avez dit, j'ai grandi à Sevran, j'ai une famille, etc. Et malheureusement, les gamins reviennent souvent abîmés par les séjours carcéraux. Voilà.
Bon, alors justement, je voudrais poser cette dernière question avant de rendre l'antenne. Police jeune, clairement, soyons sans langue de bois. Je sais que vous l'êtes. Est-ce que le dialogue est toujours aussi compliqué ou impossible ?
Mais tout est possible.
Ben, quand on fait le constat, Bibi Nasseri vient de faire le constat. 40 ans. 40 ans d'échec.
Oui, non, non. Ouais, attention, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce que j'ai voulu dire surtout, c'est que. Parce qu'on ne met pas les choses en place. Si on met les choses en place, il y a un dialogue. Après, si on fait rien. Pour les quartiers, si on donne rien dans les quartiers, si on.
Mais alors pourquoi le dialogue est toujours aussi compliqué entre la police et les jeunes?
Que les flics rentrent plus dans les quartiers.
Adil, non, mais je voudrais.
Oui, c'est vrai.
Mais merci, excusez-moi de ramener le bébé à moi, mais moi je vais dans les quartiers. J'étais à Toulouse, aux Isards, il y a pas longtemps. Il y a un mois, j'étais au quartier les Flamands à Marseille, deux jours avec 10 policiers qui travaillaient en plein milieu des Flamands. Faire du contact avec les familles.
Vous faites la tournée en France.
Les policiers font du travail de proximité à travers mon association, mais d'autres gens, Graines de France et d'autres.
Mais tu n'es pas assez aidé, Bruno. N'es pas assez aidé.
Il me faudrait beaucoup.
Ça veut dire quoi, ne pas être assez aidé par qui ?
Par l'État, par la puissance publique.
Non, Mohamed, je ne suis plus mesuré.
Mais il pourrait plus t'aider. Il pourrait.
La NCT,
même. Et l'inverse, vous êtes assez nombreux.
Non, mais même à l'intérieur. Mais ce qu'il faut surtout, c'est de l'humain. Et de l'humain, ça, c'est essentiel. Et dans ces quartiers-là, qu'est-ce que.
Donc le dialogue passe par là ?
Oui, ça passe par là, parce que pour remplacer ce que disait Mohamed, la police de proximité, on ne refera pas la police de proximité, celle qui la font
encore,
ce sont les polices municipales. Parce qu'on a atteint un niveau dans certains quartiers qui est très compliqué, avec une
minorité
de jeunes
qui sont plus de
50 ans. On a laissé faire, oui, malheureusement, les dérives sont comme ça. C'est pas la faute de la police, c'est la faute de tout le monde, de la société de façon globale. Parce qu'on a laissé, on a abandonné ces quartiers au niveau des infrastructures institutionnelles et autres, mais les associations ont disparu. 20 ans d'associations qui sont mortes, moi je le vois quand j'y vais. Et ce travail-là, s'il n'est pas fait ensemble, il ne sera pas fait seulement par la police et par la justice. Ce n'est pas vrai. Donc, on a du travail là-dessus. Il y a des choses qui sont faites. Il ne faut pas noircir ces quartiers, encore une fois.
Non,
on
ne
voit que ces
tout.
Quartiers par le prisme des quelques 50 mecs qui foutent le bazar.
Mais pas du tout.
Du trafic.
Alors,
plein de mecs qui vivent dans
la
rue.
Tu vas n'importe où aujourd'hui, n'importe où, dans un garage, chez un gynéco, chez un médecin, chez un ophtalmo, tu vas tomber sur un maghrébin. Et surtout nos sœurs, nos filles, chez une maghrébine, enfin une française d'origine maghrébine. On est partout. Sauf que c'est vrai, il y a des jeunes qui pourrissent le truc. Mais ces jeunes qui pourrissent le truc parce que on n'a rien fait pour que ces quartiers-là soient, moi, j'ai grandi dans ces quartiers-là. J'avais pas envie d'aller travailler comme mon père pour gagner 3 sous, alors qu'il y avait des combines. On avait des combines pour aller prendre 4 fois la paye.
Excusez-moi.
Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Non, mais c'est ce que je dis. 80% des jeunes ne veulent pas aller en tôle. 80% des jeunes ne veulent pas voler. Mais il y a ces jeunes qui pourrissent, mais qui pourrissent aussi parce qu'il y a une raison. Il faut aussi trouver la raison. Valls disait, il faut pas expliquer parce qu'expliquer, c'est excuser.
C'est scandaleux de dire ça. C'était honteux.
Mais pour autant.
Là, ce que dit, c'est très, très, très important, Bruno Poma.
Oui, mais je suis d'accord. Allez. Le problème, c'est qu'il y a une minorité dans ces quartiers qui sont tellement plombés dans le business et autres, qui sont c'est compliqué de les ramener, je dirais, dans le sérail. Par contre, il faut s'occuper de tout.
Vous savez ce que je vous propose, messieurs? Vous savez ce que je vous propose? Comme on a démarré tard,
on a mangé un couscous au Maroc.
Exactement. Comme on a démarré tard, non seulement on va manger le couscous, mais
j'ai une question, moi. Oui. Sarkozy a été condamné à 1 an de prison. Est-ce qu'il fera la peine blanchée?
Messieurs, Bibi Nasseri, promis, Bruno Poma, on va reconduire ce débat.
Dédicace à Fahim.
Je vais accueillir le 20-21, c'est Time Sport avec Bilal Nedman. Bonsoir, Bilal.
Bonsoir Adil.
Et invité exceptionnel aussi ce soir.
Pierre Ménès qui sera avec nous en live sur l'antenne de Beurre FM.
On va parler. Je l'ai vu traverser les couloirs.
Oui, juste là, il nous attend, il attend l'émission. On va parler du Stade Rennais, du carton en face aux Lyonnais. Oui. Sans oublier aussi les oubliés de Didier Deschamps avec l'équipe de France et le Ballon d'Or
à suivre
2021.
À suivre. Ouais. Karim Benzema Ballon d'Or.
On verra.
On va le soutenir. Bruno Poma, votre ouvrage que j'invite tous les auditeurs à aller le procurer aux éditions Panthéon. QNPV, quartier non prioritaire de la politique de la ville.
C'est pour mon ami Bibi.
Voilà, et puis moi, moi je t'ai pas amené mes livres, mes romans, parce que tu lis pas de romans, toi, tu lis que des livres intellectuels.
Merci à Bruno Poma, ancien du RAID, ancien policier du RAID, président fondateur de la RAID d'Aventure. Bibi Nasseri, scénariste, acteur, comédien, prochaine pièce de théâtre bientôt, j'imagine.
Ouais, vivement Noël.
Vivement Noël.
Un théâtre, mais on va trouver.
Voilà, absolument.
Sur les bourgeois.
Sur les bourgeois. Ah, ah ça me plaît, ça. Mohamed Nedjebourg, à bientôt, consultant en communication.
À bientôt.
À bientôt. À Yanis, à la réalisation. À demain, avec autant de plaisir, on ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.